Envie de commencer ce moment, je vous inviterai avec moi à vous prosterner pour demander à notre Dieu de nous d'être présent et surtout d'être présent en nous éclairant. Notre Dieu, notre Père, c'est avec une douce joie que nous venons à ton trône pour implorer, Seigneur, ta présence. Nous désirons, Seigneur, ouvrir les Saintes Écritures, mais nous désirons ouvrir les Écritures de manière à pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner ce dont nous avons besoin pour comprendre les Saintes Écritures. Tu les as inspirées en donnant ton Saint-Esprit à ces saints hommes d'autrefois. Et Seigneur, nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint en ce matin, en ce moment, afin que nous puissions être à même de comprendre ce que, par ton Saint-Esprit, tu as inspiré. Et nous sommes venus, Seigneur, avec l'assurance de recevoir ce que nous t'avons demandé, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. En ce matin, nous allons considérer encore une fois le sujet du royaume de Dieu. Et en vue de démarrer ce message, je vous inviterai à ouvrir avec moi vos Bibles et à vous rendre dans l'Évangile selon Matthieu, de manière à ce que nous puissions considérer le texte de base. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et pendant que nous ouvrons nos Bibles, je vous rappellerai que nous sommes en train d'étudier le sujet du royaume de Dieu. Et plus particulièrement, nous sommes dans la section Entrée dans le royaume de Dieu. Autrement dit, tout ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu. Comment y entrer? Que nous faut-il pour y entrer? Toutes les questions que l'on peut se poser sont dans, et toutes les réponses sont, nous les traitons. Nous traitons tout ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu dans cette section. Et nous avons déjà vu la nouvelle naissance. Nous avons vu la condition de l'alliance, l'obéissance, le devoir immuable qui est l'obéissance, la volonté du Père. Nous avons considéré les serviteurs du royaume, nous avons considéré également les enfants du royaume, et sabbat dernier, nous avons considéré la connaissance de Dieu et de Jésus. Et nous avons vu à travers tous ces sujets-là, tous ces thèmes-là, toutes ces présentations-là, les différentes facettes de la question comment rentrer dans le royaume de Dieu, tout ce qui tourne autour. Et aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle facette. Et en vue de savoir de quoi il s'agit, je vous invite à considérer le texte de base, Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, le verset 3, et c'est un texte qui ne vous est pas étranger normalement. Et je vais même lire à partir du verset premier. Or Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et, ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus, l'instructeur, le plus grand enseignant que ce monde ait connu, est monté sur une montagne. Et cela nous fait étrangement penser à l'épisode du Sinaï, où de la montagne, Dieu, à travers Jésus, a promulgué son caractère, sa loi. Et ici, nous avons pour ainsi dire, un antitype. Mais je ne parlerai pas d'antitype parce que cela impliquerait que c'est un type ce qui s'est passé au Sinaï et que cela est aboli. Non, mais nous avons là une similitude, nous avons là un parallèle. D'accord? Nous avons là un parallèle. Et ici, j'ai remarqué qui est-ce qui est venu. Ce sont les disciples qui se sont approchés et Jésus les a enseignés. Mes amis, ici, il y a un enseignement pour les disciples de l'agneau, les disciples de Jésus. Et la première chose que Jésus a prononcée, la première béatitude qu'il a prononcée, elle concerne le royaume, mes amis, le royaume des cieux. Et nous connaissons les béatitudes normalement, mais je vous précise que la première qu'il a prononcée concerne le royaume des cieux, mes amis. Donc, lorsqu'il a dit en Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données, et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus, il est un peu normal qu'il commence par le royaume des cieux lorsqu'il enseigne sur la montagne. Et là, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus ouvre. Jésus présente la condition. Que signifie être pauvre en esprit? Le mot pauvre, ici, que nous avons dans le texte, est traduit du grec ptokos. Et ce terme a pour signification mendiant, indigent, pauvre. Ce qui va impliquer un manque de richesse, un manque d'influence et aussi de position d'honneur. D'accord? Voilà les significations que ce terme grec, ptokos, que l'on traduit ici par pauvre, peut avoir. Donc, dans le contexte dans lequel Jésus emploie ce mot, pauvre en esprit, il s'agirait donc de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui aspirent à la combler. Il s'agit de personnes qui sont-elles des mendiants auprès de Dieu, de manière à voir leur pauvreté spirituelle comblée, mes amis. Mettez-vous dans la peau d'un mendiant, mes amis. Lorsque vous êtes, mes amis, obligés de mendier, déjà, lorsque vous mendiez, c'est une obligation normalement, à moins. De nos jours, il y a des personnes qui font des simulacres, ok. Mais mes amis, lorsque vous arrivez à ce stade-là, mes amis, c'est que vous n'avez rien, mes amis. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, et c'est Jésus prend ce terme-là que l'on applique normalement à de manière matérielle. Et il le prend pour l'appliquer au domaine spirituel. Jésus dit que ce sont ceux qui sont tels des mendiants spirituels, qui reconnaissent, qui aspirent à voir leur pauvreté spirituelle comblée. Ce sont à eux que le royaume, c'est le royaume des cieux leur appartient. C'est ce qu'il dit. Et je vous invite à considérer comment Jésus employa ce terme, ptokos, dans Luc chapitre 4, verset 16. Rendons-nous dans l'évangile selon Luc au chapitre 4 et au verset 16. Luc chapitre 4. Et considérons le verset 16 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Le terme tokos, nous le retrouvons ici au verset 18, lorsqu'il dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Et là, il ne place pas ici, dans le grec, dans le texte que nous avons ici dans l'évangile, il n'y a pas spirituel derrière. Il n'y a pas spirituel. Donc on pourrait se dire, mais de quoi? De quoi veut-il parler ici? Pour avoir une bonne compréhension de ce texte, mes amis, je vous inviterai à considérer l'endroit où Jésus a cité. Parce que Jésus ici cite un texte de l'Ancien Testament, que nous appelons l'Ancien Testament. Donc je vous inviterai à considérer ce texte de manière à analyser ce qu'il est dit dans l'original, dans le texte original. Et ce texte se trouve dans Ésaïe. Rendons-nous dans Ésaïe. Et au chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Et considérons ce qu'il est dit dès le début du chapitre, verset 1er et verset 2. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Je m'arrêterai ici. Ici, la version que j'ai traduit cela par affligé. Et le terme affligé est en réalité traduit de l'hébreu aonav et il signifie déprimé, abattu d'esprit, mais également humble. Humble. Donc, et l'hébreu aussi va donner la signification de pauvre en fait. La signification de pauvre peut être apportée. Mais j'ai mis en évidence pour vous les significations que l'on ne retrouvait pas dans le terme grec. Et il y a une... Donc voilà un peu Nous avons étudié un peu le vocabulaire pour bien comprendre les différentes significations que ce terme peut avoir. Mais il y a une chose que je voudrais apporter à votre attention. C'est que il est dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on lit ça, mes amis, j'ai une question. Il y a une question que l'on devrait se poser, vous et moi. N'y aurait-il que ces personnes qui aient le droit d'entendre l'Évangile? Car il dit que c'est pour ces personnes-là qu'il a été envoyé pour annoncer l'Évangile. Donc, cela sous-tendrait qu'en fait, il n'y a que ces personnes-là qui sont censées entendre la proclamation de l'Évangile. Telle est la question que l'on, vous et moi, nous pouvons nous poser, vu ce que le texte dit. Et il en était de même dans Luc. Pour répondre à cette question, mes amis, rendons-nous à la fin du livre d'Ésaïe pour considérer le début du dernier chapitre. Ésaïe 66, bien évidemment. Et considérons le verset 1 et le verset 2. Ainsi a dit l'Éternel, Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Dieu ne voulait pas seulement être présent, manifester sa présence dans un temple fait de main d'homme, car les matériaux que les hommes peuvent utiliser pour ériger une construction dédiée à la prière, à l'adoration, au culte, c'est Dieu qui les a faits. Tout ce que... Et c'est Dieu qui nous-mêmes nous a créés pour l'adorer et le louer. Ce n'est pas la volonté de Dieu vis-à-vis de l'adoration ne se résumait pas à un lieu de culte, mes amis, à un lieu où l'on vient adorer, un temple, une maison d'adoration. Non. Mais Dieu voulait par-dessus tout, il voulait par-dessus tout habiter dans les cœurs de ceux qui sont humiliés et contrits, dans les cœurs de ceux qui tremblent à sa parole. Et ainsi, mes amis, Jésus, qui est la parole de Dieu et qui a dit en Luc, comme nous l'avons lu, qu'aujourd'hui cette parole a été accomplie, c'est ce qu'il dit quand il a lu Ésaïe 61, il dit que cela a été accompli. Jésus, qui est la parole de Dieu, voulait dire à ses auditeurs que la prédication de l'Évangile allait trouver écho dans les cœurs des pauvres en esprit, de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui aspirent et qui mendient à ce que cette pauvreté soit comblée. Ils mendient la richesse pour combler cette pauvreté spirituelle parce qu'ils la reconnaissent. La prédication de l'Évangile allait trouver écho chez ceux qui sont humiliés et contrits, dans les cœurs de ceux qui tremblent à sa parole. Voilà. Voilà pourquoi Jésus a été oint. Et voilà pourquoi l'onction de Jésus, voilà pourquoi le ministère de Jésus ne sera pas inutile. C'est en raison de cette catégorie de personnes-là. Et je souhaiterais vous inviter à considérer un commentaire inspiré que l'on trouve dans le livre « Heureux ceux qui » à la page 15, paragraphe 1, et nous lirons jusqu'à la page 17, paragraphe 2. Et Ellen White dit ce qui suit. En commentant notre texte de base, d'accord? Matthieu, chapitre 5, verset 3. Et elle dit ce qui suit. Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée comme une doctrine étrange et nouvelle. Un tel enseignement est nettement opposé à celui qu'ils ont reçu des sacrificateurs et des rabbins. Il ne renferme rien qui flatte leur orgueil, rien qui alimente leurs ambitions. Et pourtant, il rayonne de ce nouveau maître une puissance qui les subjugue. De sa présence émane comme le parfum d'une fleur, la douceur de l'amour divin. Ses paroles descendent comme une pluie qui tombe sur une terre fauchée, comme des ondées qui arrosent la campagne. Psaume 76, verset 6. Instinctivement, les auditeurs sentent qu'ils sont en présence d'un être qui lit les secrets de l'âme et qui, cependant, vient à eux plein d'une compassion infinie. Leur cœur s'ouvre à lui et, tandis qu'ils écoutent, l'Esprit leur fait entrevoir le sens de cet enseignement si nécessaire à l'humanité de tous les âges. Au jour du Christ, les chefs religieux du peuple se croyaient spirituellement riches. La prière du pharisien, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes », Luc 18, verset 11, exprimait le sentiment de sa classe et de presque toute la nation. Mais dans la foule qui entourait Jésus, se trouvaient des gens qui avaient conscience de leur dénuement spirituel. Lorsque, après la pêche miraculeuse, la puissance divine de Jésus s'était révélée, Pierre s'était jeté aux pieds du Sauveur en disant « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc 5, verset 8. Dans cette foule assemblée sous la montagne, se trouvaient aussi des prêtres qui, en présence de la pureté de Jésus, se découvrant malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, Apocalypse 3, verset 17. Ils soupiraient après la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, Tite 2, verset 11. Les paroles de Jésus, ranimant l'espérance endormie dans ses âmes, leur faisaient comprendre que Dieu leur offrait le bonheur. Le même bonheur gratuit présenté par Jésus à ceux qui se croyaient riches et à l'abri du besoin fut au contraire repoussé par eux avec dédain et mépris. Celui qui s'estime saint, juste et bon, qui est satisfait de soi, ne cherche pas à bénéficier de la grâce et de la justice du Christ. L'orgueil ferme le cœur à la douce influence du Sauveur et aux bénédictions qui découlent de sa présence. Il n'y a pas de place pour Jésus dans de telles âmes. Ceux qui sont riches et honorables à leurs propres yeux ne demandent ni ne reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils se croient pourvus et s'en vont avides, tandis que ceux qui sentent leur incapacité de faire leur salut ou d'accomplir par eux-mêmes une bonne action apprécieront l'aide que Jésus leur apporte. Ce sont là les pauvres en esprit, ceux auxquels précisément le bonheur est promis. Pour pardonner à l'homme, Jésus lui inspire le repentir. Le Saint-Esprit le rend conscient de ses fautes et lui fait comprendre qu'il n'y a rien de bon en lui, que l'égoïsme et le péché entachent toutes ses actions. Comme le pauvre publicain, il se tient à l'écart, n'osant lever les yeux et s'écrie « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc 18, 13. Et il est exaucé. Le pardon est pour celui qui se repent, car le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. » Ésaïe 1, verset 18. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. » Ézéchiel 36, 26 et verset 27. Parlant des pauvres en esprit, Jésus déclare que le royaume des cieux leur appartient. Ce règne n'est pas temporel et terrestre, comme ses auditeurs l'espéraient. Le Fils de l'homme voulait leur faire comprendre en quoi consiste ce royaume spirituel, de l'amour, de la grâce, de la justice, dont il était le symbole vivant, royaume destiné aux pauvres en esprit, aux débonnaires, aux persécutés, qui en sont les sujets et auxquels il appartient. Bien qu'elle ne soit pas encore achevée, l'œuvre est commencée en eux et les rendra capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, verset 12. Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. Il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se charge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu'ait pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tel que nous sommes, faibles, privés de soutien ou désespérés, le Sauveur compatissant viendra au-devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous présenter au Père, revêtus de son propre caractère comme d'un vêtement éclatant. Il intercédera pour nous auprès de lui en disant, j'ai pris la place du pécheur. N'abaisse pas les regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. Si Satan nous accuse à grands cris en dévoilant notre péché et en nous revendiquant comme sa proie, sachons que le sang du Christ plaide avec une puissance plus grande encore pour nous arracher à lui. En l'Éternel seul réside la justice et la force. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël, est-il dit dans Ésaïe 45, versets 24 et 25. Je tenais à partager avec vous ce court commentaire que nous trouvons, mais il est quand même assez complet. Ce court commentaire complet que nous trouvons dans le livre Heureux ceux qui. Et que dire de plus? Les choses sont si bien exprimées, mes amis. Les choses sont si bien exprimées. C'est pour de telles personnes que Jésus est venu, mes amis. C'est pour de telles personnes. Et mes amis, je veux, par la grâce de Dieu, tout comme j'ai connu le Seigneur Jésus un jour, et que j'étais dans cette situation, mes amis, je veux tous les jours de ma vie le rester. Car c'est dans cette condition-là, mes amis, que le bonheur m'est promis, comme il a été dit. C'est dans cette condition-là, mes amis, que le royaume restera mon héritage, ce qui m'appartient. Si je reconnais mon besoin de Christ, mon dénuement, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ peut se manifester dans ma vie. C'est à ce moment-là que, mes amis, Jésus-Christ, et seulement dans ces conditions-là, que Jésus-Christ peut intervenir. Autrement, il ne peut pas. Et donc, moi, je souhaite qu'il en soit ainsi. Et je veux combattre tout ce que Satan, toutes les accusations qu'il aura contre moi, lorsqu'il me revendique comme étant à lui, par la foi, je dois être en mesure de lui dire que non. Jésus a vécu la seconde mort et qu'il est mort à ma place et que j'ai besoin de lui et que lorsque je suis dans cet état, le royaume des cieux m'appartient. Mon entrée est assurée parce que Jésus fera sa part. Jésus est ma justice. Et il me justifie devant le Père parce que je viens et je mendie pour recevoir ce que je n'ai pas. Et toi, tu m'accuses. Mais tu n'as pas raison. Parce que moi, je mendie. Et quand je mendie, je reçois. Et Jésus me donne parce que je reconnais mon besoin. Et à ce moment-là, je suis riche. Et l'ennemi ne peut plus rien. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Voilà comme il est dit dans le texte. C'est dans le cœur de telle personne que Dieu vient faire sa demeure. Lorsque nous sommes dans cet état-là, mes amis, nous pouvons avoir l'assurance que nous serons le temple de Dieu en esprit, mes amis. C'est ce que Ésaïe 66, verset 2 voulait dire. C'est ce que Dieu voulait dire en réalité. Et voici à qui je regarde. Autrement dit, les yeux du Seigneur sont sur cette catégorie de personnes-là. À celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Le Seigneur ne s'arrête pas à l'apparence, à ce qu'on peut fabriquer de nous-mêmes et qui est fait d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Non. Ce à qui Dieu regarde, ce sont aux pauvres en esprit, mes amis, à ceux qui sont humbles, qui ont l'esprit abattu et qui tremblent à sa parole. Voici le cœur dans lequel Dieu vient habiter. Une telle condition d'esprit qu'on peut permettre à Dieu de venir habiter dans nos cœurs, mes amis. Et de manière intéressante, au verset 5 du même chapitre, Ésaïe 66, on nous donne une caractéristique de cette catégorie de personnes, de ces pauvres en esprit, de ces humbles, de ceux qui ont l'esprit abattu, de ceux qui tremblent à la parole de Dieu. On nous donne une caractéristique. Alors lisons le verset 5. Écoutez, donc je rappelle, Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. OK? Donc on parle bien de ceux dont on parlait au verset 2. OK? Donc l'Éternel, au verset 2, il dit à qui il regarde, et après, il leur adresse un message. Mes amis, je désire rester dans cette condition-là, de manière à ce que Dieu puisse faire sa demeure en moi, mes amis. Et puisque je désire cela, mes amis, je dois aussi écouter le verset 5, car cela me concerne. Dieu m'envoie un message. Moi qui désire ne pas être un pharisien. Écoutons ce que Dieu dit. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom ont dit que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus, dit le texte. L'Éternel précise qui sont ses vrais adorateurs, qui sont ceux en qui il prend plaisir, qui sont ceux sur qui il porte ses regards sont portés. Mais il leur adresse aussi un message, mes amis. Et il leur dit que vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom, et il leur dit ce qu'ils disent, vos frères. Nous devons savoir ce que cela signifie, chers frères et sœurs. Les pauvres en esprit, ceux qui tremblent à la parole du Seigneur, sont haïs et rejetés de leurs frères, lesquels disent que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais le texte dit, ils seront confondus. Et avant de considérer cette dernière parole, ils seront confondus. Cette parole que portent, comportaient et que portent les frères des pauvres en esprit, des humbles. Je souhaite vous présenter la cause réelle de ce rejet. Et les paroles que nous lisons au verset 5, que nous venons de lire au verset 5, ces paroles ont été reprises à quelques mots près par Jésus dans Luc chapitre 21. Rendons-nous dans Luc chapitre 21, Et considérons le verset 16 et le verset 17. Luc, chapitre 21, verset 16 et verset 17. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Jésus déclara à ses disciples qu'il, comme il avait été dit en fait, en Ésaïe 66, verset 5, qu'ils seront haïs. Et là, il précise, vos parents, vos frères, les frères sont là. Mais là, vos parents, vos frères, vos proches, vos amis, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom, dit-il. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi les disciples furent-ils haïs? Les disciples qui étaient avec Jésus à son époque. Pourquoi furent-ils haïs? Quelle en fut la raison de cette conjuration qui était contre eux? Considérons ce qui est marqué dans Jean chapitre 15. Rendons-nous dans Jean, l'évangile selon Jean chapitre 15, et considérons le verset 19 à 21. Jean chapitre 15, verset 19 à 21. Et il est dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom. OK, donc ici, cela vient compléter ce qui avait été dit dans ce qu'on a lu en Luc 21, versets 16 et 17. Mais est-ce que le texte s'arrête là, mes amis? Le texte ne s'arrête pas là. Jésus a dit, ils vous feront tout cela à cause de mon nom. Mais est-ce que Jésus ne fait que répéter ici ce qu'il avait déjà dit, enfin ce que Luc rapporte de cette parole-là? Non, Jésus va plus loin. Parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Ah, Jésus dit que la raison de cela, c'est qu'ils ne connaissent pas celui qui a envoyé Jésus. Et, mes amis, il serait dommage de nous arrêter ici, car nous aurons une compréhension minimale de ce que Jésus a voulu dire. Je vous invite pour cela, pour avoir une compréhension pleine, à nous rendre quelques versets plus loin. Rendons-nous quelques versets plus loin, et nous sautons même un chapitre, en fait le chapitre 16. Rendons-nous au chapitre 16 et lisons. Du verset 1er au verset 3. Donc, c'est quelques versets plus loin. Et vous savez que dans le texte original, il n'y a pas de chapitre ni de verset. Donc, cela forme une continuité, en fait. Donc, rendons-nous quelques passages plus loin, quelques lignes plus loin. Je vous ai dit ces choses. Donc, ce qu'il a dit au verset 15. Donc, on voit bien que c'est en rapport. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous scandalisiez point. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. Voyez-vous, à l'époque de la théocratie, Dieu se servait des agents humains pour exécuter ses jugements. Okay? Et aujourd'hui, il n'y a plus de ce système-là, n'est plus appliqué. Et Dieu ne demande pas de tuer, mes amis. Et Jésus, en disant cela, il est en train de montrer en fait que les hommes n'allaient pas comprendre Dieu, pas comprendre sa volonté notamment, et qu'ils allaient faire mourir les gens en pensant rendre un culte, alors que Dieu ne demande pas de tuer. Dieu, à l'heure actuelle, ne demande de tuer personne. Car il n'y a pas de... La théocratie n'est pas en vigueur comme elle l'était à l'époque d'Israël, quand le Seigneur conduisait son peuple, mes amis. Là, il s'agit du royaume de Dieu, royaume spirituel dans lequel nous devons entrer, de manière à pouvoir rentrer dans le royaume de gloire. Et à nouveau à ce moment-là, nous serons dans une théocratie. Mais bien que dans ce monde, pour terminer ma parenthèse, parce que c'est une parenthèse que je fais, bien que dans ce monde, bien que soumis aux autorités de ce monde, nous sommes sujets du royaume de Dieu. Et le gouvernement de Dieu, quel que soit ce que les différents politiciens de nos jours disent, mes amis, le gouvernement de Dieu a plus de droits sur nous que le gouvernement de ces hommes, des hommes. Ainsi, les pauvres en esprit connaissent le Père et le Fils. Et ceux-ci sont haïs de leurs frères en raison du fait que ces frères n'ont pas connu le Père et le Fils. Voilà pourquoi les disciples étaient haïs, mes amis. Voilà pourquoi les disciples étaient haïs. Les disciples de Christ étaient haïs. Et parmi les significations que peut avoir le terme grec ginosko, traduit ici par connu au verset 3, connu, ils n'ont connu ni mon père ni moi. Donc ce terme, ginosko, traduit ici par connu, il est intéressant de mentionner celle de comprendre. Ils n'auront pas compris. Ils n'auront pas compris. Ils n'auront compris ni mon père ni moi. Ils vous feront tout cela parce qu'ils n'auront compris ni mon père ni moi. Ils n'auront connu, compris. Ils n'ont pas compris le Père et le Fils, mes amis. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, de son vivant. Et c'est ce qui va arriver. Oui ou non, c'est ce qui va se passer. On ne sait pas. Bon, ben on ne sait pas. Les frères des pauvres en esprit n'ont pas compris le Père et le Fils. En clair, ils n'ont pas compris la divinité. Ils n'avaient pas compris la divinité, les Juifs, à l'époque de Christ. Et mes amis, il faut préciser également que en Luc chapitre 21, rendons-nous à nouveau dans Luc chapitre 21 et considérons le verset 12. Il faut préciser que Jésus avait informé les pauvres en esprit de son temps que, il est dit, mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison et vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. À nouveau. Donc quand il dit à cause de mon nom, on a compris que c'est parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Mais en fait, quand on prolonge la pensée de Jésus, ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Donc quand Jésus dit à cause de mon nom, c'est ça en fait. C'est parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. Donc ici, les pauvres en esprit, Jésus a averti les pauvres en esprit. Parce qu'il s'agit ici des pauvres en esprit, on est d'accord. Puisque en Ésaïe 66, ok, et au verset 5, il parlait à ceux qui tremblaient à la parole, les pauvres en esprit, les humbles. Et il leur a dit, vos frères, et on est allé dans le Nouveau Testament pour considérer cette parole de Jésus. Et Jésus a averti les pauvres en esprit en leur disant que vous serez persécutés, livrés aux autorités religieuses des synagogues, mis en prison, amenés devant les autorités civiles, les rois, les gouverneurs, et tout cela pour mon nom, à cause de mon nom, parce que ils n'ont pas compris ni le Père ni le Fils. Et l'Écriture atteste bien que ce furent bel et bien les Juifs qui rejetèrent Jésus en tant que fils de Dieu et qui livrèrent les disciples aux autorités. L'Écriture nous le dit, mes amis. Et en Matthieu 24, verset 9, Jésus ajouta, alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous, les pauvres en esprit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous qui tremblez à ma parole, vous les humbles, vous qui avez compris que vous n'êtes pas riches spirituellement et que vous avez besoin de moi, vous qui avez compris que sans moi vous ne pouvez rien faire, vous serez là. L'objet de la haine de toutes les nations. Ainsi, les croyants, ceux qui ont la foi, la vraie foi de Jésus, et bien évidemment en Jésus, ces croyants-là sont destinés, mes amis, à être dans ce monde, haïs par le monde. Car ils auront placé leur confiance dans le Père et le Fils. Mes amis, je souhaiterais à présent, après avoir considéré la portée des paroles que nous avons lues dans Ésaïe 65, notamment dans le fait que les frères, l'objet de la haine des frères, pour avoir compris de quoi il s'agissait. Je souhaiterais que nous considérions ce que les frères ont dit. Qu'ont dit les frères des pauvres en esprit, mes amis, dans Ésaïe 66, verset 5? Ils ont dit que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Vous vous rendez compte de ce que les frères des pauvres en esprit ont dit? Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. C'est une provocation, mes amis. Il n'y a rien de sincère là-dedans. En fait, ils sont en train de se moquer de l'Éternel. Ils sont en train de se moquer du second avènement de Jésus, mes amis. Ils sont en train de se moquer du fait que Dieu ne délivrera pas ses enfants. Ils se moquaient. Mais rappelons-nous que le texte continue dans Ésaïe 66, verset 5. Le verset se termine, mais en disant, il dit quoi le verset? Mais ils seront confondus. Ah!
ils seront confondus.
Et pourquoi? Et surtout, comment? Comment? Rendons-nous, mes amis, dans Apocalypse, chapitre 6, pour considérer cela. Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Et il est dit, « Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sous le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Mes amis, attendez. Ici, on nous parle de qui? Qui se cache là? Les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants. Mais c'est de ces personnes-là que Jésus parlait lorsqu'il disait aux pauvres en esprit qu'ils vous persécuteront à cause de mon nom. Il disait bien cela. Ils vous emmèneront devant les gouverneurs, devant les juges, etc. On retrouve bien ces personnes-là. On retrouve cette classe de personnes. Mais rappelez-vous que Jésus avait dit aussi, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Autrement dit, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, ceux qui les haïssaient, ceux qui les persécutaient, les autorités religieuses, les autorités civiles, leurs familles, ils sont à présent confondus par la gloire de celui qui est assis sous le trône, le Père, Dieu le Père, et de l'agneau, mes amis. Et ces personnes-là, on les retrouve ici, au verset 15 et au verset 16. Et ils demandent à se cacher. Mais pourtant, dans Ésaïe 66, verset 5, ils se sont moqués et ils ont dit quoi aux pauvres en esprit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces soi-disant riches? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mes amis, l'Éternel va montrer sa gloire lorsque Jésus reviendra. Il viendra dans la gloire du Père. Le Père reste dans la cité. Mais Jésus vient avec la gloire du Père, ainsi que la sienne et celle des anges. Et quand Jésus revient, mes amis, tous ces méchants-là, les frères des pauvres en esprit, qui avaient dit, mais qu'il manifeste sa gloire, que nous voyons votre joie. Parce que les pauvres en esprit, en réalité, sont ceux qui croient dans le second avènement de Jésus et que Jésus les délivrera, mes amis. Mais leurs frères connaissent leur espérance. Ils savent en qui ils se sont confiés, dans le Père et dans le Fils. Et ils sont haïs de cela. Et pour les décourager, on leur dit, mais qu'il montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais lorsqu'il fera ça, mes amis, lorsqu'il fera ça, ils seront confondus. Et effectivement, ils verront la joie des pauvres en esprit. L'Éternel aura montré sa gloire, ils verront la joie des pauvres en esprit, mais eux, ils seront confondus. Et ils demanderont à être cachés, mes amis. Cachés de qui, mes amis? Cachés de l'objet de la haine. Cachés de la raison pour laquelle il faisait la guerre aux pauvres en esprit. Cachés, ils demanderont à être cachés de ceux en qui les pauvres en esprit ont placé leur confiance. Celui qui est assis sous le trône, Dieu le Père, ainsi que l'agneau. L'agneau, mes amis. L'agneau. Et les pauvres en esprit, ce sont qui? Ce sont des humbles. Mes amis, vous voyez l'accord? L'accord qu'il y a. Les pauvres en esprit placent leur confiance dans l'agneau, mes amis. L'agneau qui est humble. Et ils sont comme lui, ils sont humbles. Et ils s'attendent à cet humble-là pour les délivrer. Et mes amis, lorsque l'agneau revient, c'est leur joie éclate. Mais pour leurs frères, ceux qui ont été leurs frères jusqu'à une certaine période, c'est la colère de l'agneau, mes amis. Il n'y a pas d'humilité à présent. L'agneau n'est pas humble avec ces gens-là. Là, c'est la colère de l'agneau qui est là pour eux. Mais qui pourra subsister? Verset 17. Les pauvres en esprit, mes amis, les pauvres en esprit pourront subsister. Car il a dit, le Seigneur a dit que c'est sur eux qu'il pose ses regards. Mais qui sont à cette période de l'histoire de cette terre? Qui seront les pauvres en esprit, mes amis? Qui seront ces pauvres en esprit? Les versets suivants apportent la réponse. Lisons, chapitre 7, verset 1, et jusqu'au verset 4, par exemple. « Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avait reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Voici, en cette période de l'histoire de ce monde, voici qui seront les pauvres en esprit, mes amis, les 144 000. Ce sont eux, mes amis, qui sont les pauvres en esprit des derniers jours. Les 144 000 sont pauvres en esprit. Ils sont humbles. Ils tremblent à la parole de Dieu. Ils sont humiliés et contrits. Et ils reçoivent le sceau du Dieu vivant, mes amis. Et parce qu'ils sont pauvres en esprit, les 144 000 ont accepté la révélation que la divinité a faite d'elle-même. Ils ont décidé de placer leur confiance dans le Père et le Fils. Les 144 000 sont, et nous tenons à le rappeler, ils sont développés à la fin de l'histoire de ce monde, mes amis. Et nous savons, pour amener quelque chose pour que vous puissiez, nous voulons à présent introduire une nouvelle notion, nous savons que les églises de l'Apocalypse, au début du livre de l'Apocalypse, nous savons que les églises représentent l'histoire de l'église de Dieu à travers les âges, les différentes églises dont il nous est parlé. Ainsi, puisque les 54 000 sont formés à la fin de l'histoire de ce monde, ils sont donc formés à l'époque de l'église de Laodicée. Mais comment? La question que l'on peut se poser, comment les pauvres en esprit des derniers jours peuvent-ils sortir de cette église, mes amis? Parce que nous pouvons poser la question, parce que nous connaissons ce qui est dit à la Odyssée. La Odyssée dit quoi? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Jésus lui dit que tu es aveugle. Elle dit non, moi je vois. Tu dis que tu as ceci, mais tu ne l'as pas. Tu penses être vêtu, mais tu es nu. C'est de cette église-là que sortent. C'est dans cette période de temps-là que sont formés les 144 000, mes amis. Comment cela a été possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils ont accepté le témoin fidèle et véritable. Ils ont accepté que le témoin fidèle et véritable vienne combler leur manque. Ils ont accepté son témoignage. Ils ont accepté que le témoin fidèle et véritable comble leur pauvreté spirituelle par sa richesse. Ils ont accepté sa justice, mes amis. Et bien évidemment, cela est passé par une connaissance du Père et du Fils. Parce que c'est en raison de cela qu'ils ont pu sortir de cet état, mes amis, et être victorieux. Et comme le verset 14, et comme au chapitre 14, il va nous être dit, des 144 000, qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Mes amis, ceux qui veulent combler leur pauvreté spirituelle doivent accepter et connaître la divinité comme étant le Père et le Fils. Mais ils doivent également s'attendre à être rejetés en raison de ce gain qu'ils auront acquis. Car, rappelez-vous, ce monde, Christ nous y a pris. Mais lorsque Christ nous y retire, physiquement, il nous y laisse. Mais intérieurement parlant, il n'y a rien du monde. Christ refait tout à zéro et il n'y a rien du monde, mes amis. Et c'est pour cela, mes amis, que puisque nous sommes physiquement dans ce monde, en tant que pauvres en esprit, nous sommes physiquement dans ce monde, mais que notre esprit aspire à être comblé par la richesse du témoin fidèle et véritable, qu'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, du fait que nous ne soyons pas sous la même longueur d'onde que ceux qui n'ont pas été renouvelés par l'Esprit de Christ, puisqu'il n'y a plus d'affinité au niveau spirituel et que nous sommes physiquement présents sur cette terre, ils feront la guerre. Ils nous feront la guerre à nous qui acceptons le Christ comme étant fils de Dieu, à nous qui aspirons à ce que Christ comble notre pauvreté. Sommes-nous prêts à cela, mes amis? Sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous prêts à porter l'opprobre du Christ? Voilà ce que nous coûte et voilà ce que nous coûtera le fait que nous ayons placé notre confiance dans le Père et le Fils. Mais en quoi aurons-nous placé notre confiance dans le Père et le Fils? En faisant quoi? En faisant quoi? En quoi sera représenté? En quoi sera impliqué excusez-moi, le fait que nous ayons placé notre confiance dans le Père et le Fils. Apocalypse 14, 12, mes amis. Parce que les humbles, les pauvres en esprit, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et voilà pourquoi la guerre leur est faite. Et voilà en quoi ils manifestent connaître Dieu et Jésus. Mais leurs frères, ceux avec qui ils étaient jusqu'à un certain moment, ceux avec qui ils fonctionnaient jusqu'à un certain moment, ils leur feront la guerre parce qu'ils n'auront pas accepté cette connaissance-là. Mes amis, ne nous étonnons pas si ceux qui étaient jusqu'à présent nos frères se mettent à se tourner contre nous du fait qu'ils ne connaissent ni le Père ni le Fils, du fait qu'ils ne gardent pas les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont des choses qui doivent se produire. Cela va se produire, Jésus l'a dit. Et ils auront la même pensée que ce qui est dit dans Ésaïe 66, verset 5. Mais Dieu parle à ceux qui tremblent à sa parole, aux pauvres en esprit, aux humbles. Et il leur dit, ils peuvent vous dire ce qu'ils voudront, mais ils seront confus, mes amis. Ils seront confus. Et l'agneau de Dieu, qui sera pour nous une joie, ce sera pour eux l'objet de leur peur, car pour eux, ce sera la colère de l'agneau, mes amis. Voilà pour qui est le royaume de Dieu, pour les pauvres en esprit, mes amis. Et voilà qui sont cette catégorie de personnes. Nous avons pu les identifier. Nous avons pu, grâce à la Bible, les Saintes Écritures, nous avons vu les caractéristiques de ces personnes. Mes amis, plaise à Dieu que nous soyons de ce nombre. Nous soyons des pauvres en esprit, des humbles. Que nous puissions mendier notre auprès de Jésus, afin que ce que nous n'avons pas puisse être comblé, mes amis. Car, comme nous l'avons vu sabbat précédent, c'est par la connaissance du Père et du Fils que nous pouvons obtenir le caractère. Et nous comprenons à présent pourquoi les pauvres d'esprit, justement, sont persécutés. C'est parce qu'ils ont cette connaissance-là. Ils sont persécutés pour cette connaissance-là et aussi pour ce que cette connaissance-là fait en eux, mes amis. Car ce n'est pas pour une théorie seulement que les gens persécuteront, mes amis. Mais les gens persécuteront les pauvres en esprit parce qu'ils se seront attachés à leurs convictions et qu'ils auront suivi l'agneau, mes amis. Voilà pourquoi les pauvres en esprit seront persécutés par les grands de ce monde, les intellectuels de ce monde, les riches de ce monde. Donc, encore une fois, que nous puissions faire partie de cette catégorie de personnes, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Prions, mes amis, afin que cette promesse, nous puissions la faire nôtre et que le royaume des cieux puisse nous appartenir et rester à nous. Tendre Père Céleste, merci pour ces instructions. Merci de nous montrer, de nous enseigner que ton royaume appartient à ceux qui sont pauvres en esprit, à ceux qui sont humbles, ceux qui reconnaissent leur nudité spirituelle, leur dénuement spirituel, ceux qui aspirent à voir cela comblé par Christ. Seigneur, nous sommes si faibles et nous avons tant besoin de toi, ô notre Père, notre Dieu. Nous avons tant besoin que, en Jésus, tu implantes en nous ton divin caractère. Nous avons tant besoin que, par Jésus, tu sois révélé pleinement en nous. Et en raison de cela, en raison de cette connaissance que tu as bien voulu nous donner de toi, notre Dieu, ainsi que de ton cher Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le monde nous fera la guerre. Les nations entières, a dit Jésus, nous haïrons. Et ceux qui, jusqu'à un certain point, étaient nos frères spirituels, mais aussi dans la famille, les familles, et au travail, les gens qui nous côtoyaient, ils nous railleront. Parce que nous aurons mis notre confiance en toi, notre Dieu, ainsi qu'en Jésus. Tout comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14. Croyez en mon Père, mais croyez aussi en moi. Et Seigneur, nous voulons nous fier en toi. Et nous tremblons à ta parole. Et nous voulons rester ainsi. Car nous devons remporter la victoire sur cette tiédeur qui caractérise la Odyssée. Cette tiédeur qui caractérise notre époque. Époque où, notamment, l'enseignement des dirigeants religieux est différent de ce que le Fils de Dieu nous a apporté. Seigneur, que nous puissions avoir ce zèle, que nous puissions accepter le conseil du témoin fidèle, afin d'être trouvés, quand Jésus reviendra, pauvres en esprit, de manière à recevoir ton sceau et faire partie de ceux qui seront scellés. Et ainsi, nous n'aurons pas peur de la colère de l'agneau, mais nous nous réjouirons dans son humilité, car nous aurons cela en partage. Merci, tendre Père, pour ce que tu as fait pour nous. Que nous puissions nous battre, que nous puissions combattre le bon combat de la foi et tâcher de rester, Seigneur, sous le sentier étroit qui nous conduit à ton royaume. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes venus, Seigneur, te prier. Amen.